Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bienvenue sur Attitude. Attitude, c'est votre radio 98.3, 90.7. AttitudeFM.com pour nous suivre partout. Nous recevons aujourd'hui Adan El Archi, donc coach de l'Alliance Barbezieux Ben Barré. Adan, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Didier, merci à vous de m'avoir invité aussi.
Donc on s'était parlé l'année dernière, mais c'était en visio, donc là on retrouve le plaisir du direct en studio. Donc ce que je te propose, Adan, c'est de faire un retour sur la saison passée, si tu le veux bien.
Ok, donc sur la saison passée, donc j'ai pris les commandes l'été de l'année passée, donc j'ai rejoint l'Alliance 3B.
En 2022, c'est ça?
Exactement, en provenance de l'ACFC, où j'ai passé 10 années, où je m'entraînais pendant 8 ans. Une saison intéressante où l'objectif était forcément la montée après l'échec qu'il y a eu l'année juste avant. Donc on a fait un bon recrutement avec des gros potentiels très jeunes, vu qu'il y avait déjà une ossature où il y avait des joueurs expérimentés au club. Donc une bonne saison, on avait bien démarré, on a très bien démarré même, et je pense que il y a eu une défaite dans la saison et 3 matchs nuls, il me semble. Donc c'était une saison parfaite. On a fini avec la meilleure attaque des poules des R3 en Aquitaine, et puis au niveau des défenses, au niveau de la défense, ça a été assez correct. Je pense qu'on avait fini avec 16 buts encaissés, donc une très bonne saison,
ouais, c'est clair. À quoi tu attribues ce carton, on va dire, sur cette saison-là?
On l'attribue déjà, parce que ce qui est important, c'est que les joueurs qui sont restés étaient sur un échec, donc ils avaient à cœur de
repartir. Ils avaient un esprit revanchard, oui.
Exactement, et puis il y avait besoin un petit peu de folie, de la jeunesse, un petit peu qui avait des choses à prouver, qui n'avaient pas joué à ce niveau-là. Certains ont joué ou ont eu des échecs, donc ils avaient à cœur de prouver. Donc je pense qu'il y avait un groupe sain, les joueurs ont adhéré au projet rapidement, et la mayonnaise elle a pris assez rapidement, donc on a bien travaillé toute la saison, malgré parfois les conditions hivernales où les terrains sont...
Beaucoup d'eau, ouais.
Exactement, ont été catastrophiques. Donc forcément, on a essayé de gérer ça. Et puis la saison, on va dire, qui s'est bien passée.
Parfait. Alors avant qu'on aille plus loin dans notre entretien, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, je te propose de faire ton historique, ton curriculum vitae en quelque sorte.
Alors, le
d'où
mien...
tu viens? Comment t'es venu au foot?
Alors moi je viens d'une petite ville dans le 45 et qui est Pithiviers, donc pas loin d'Orléans.
Il y a des gâteaux célèbres par là-bas.
Exactement, le gâteau de Pithiviers, exactement. Donc moi je suis de là-bas, donc j'ai commencé le foot à 9 ans, il me semble. Je me souviens pas, mais je crois que c'est 9-10 ans, un truc comme ça, en pipi, ou à l'époque on l'avoue c'était ou poussin plutôt, j'étais poussin, en poussin.
Ouais.
Voilà, exactement. Donc j'ai commencé là-bas où j'ai passé 3 années. Ensuite j'ai été repéré par le club du FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle à Orléans, donc j'ai été là-bas en sport-études, donc j'étais dans un collège là-bas, et puis à l'internat, donc je passais mes semaines là-bas, et puis le week-end je jouais aussi sur Orléans. Donc
à quel niveau c'était à cette époque-là?
À ce moment-là je jouais en 15 ans nationaux.
Ah oui,
exactement.
À quel poste?
Je jouais attaquant, moi.
Attaquant.
Donc voilà, j'ai passé une année là, j'ai passé 2 ans, donc 15 ans nationaux, ensuite j'ai fait U17 nationaux, première année, et j'ai été recruté par le Mans, le MUC 72 à l'époque. Mm-hmm. Donc j'avais signé un contrat aspirant et stagiaire, donc j'ai passé 3 années, donc j'ai fait les 17 nationaux, j'ai intégré le groupe réserve rapidement, on a fait quelques entraînements avec le groupe pro, donc voilà, après j'ai eu une blessure très importante au niveau du genou.
Les ligaments croisés?
Non, ménisque.
Ménisque
qui a... où ça a vraiment provoqué avec des infiltrations, j'ai eu des problèmes de cartilage, donc j'ai dû arrêter le foot pendant 8 mois. Après ça, donc j'ai fait une rééducation, donc j'ai fait beaucoup de renforcement, et puis j'ai repris, j'ai été prêté une année à jouer les tours, donc j'ai fait une année en CFA2 là-bas, et par la suite j'ai fait une bonne saison, et donc en fin de contrat au Mans, donc j'ai quitté la France pour aller au Portugal.
Ah bon?
J'ai rejoint le club de Braga B, donc en espoir, et puis j'ai passé une saison là-bas. Ensuite, je m'entraînais avec le groupe pro à ce moment-là. C'était Jusualdo Ferreira qui venait des Girondins à cette époque-là, qui était là-bas. Et puis la deuxième année, j'ai été prêté dans un club à la banlieue de Porto, l'ESA, qui était en Détroit. D2, qui venait de monter de Détroit, qui montait en D2. Donc j'ai fait une année là-bas. Et par la suite, donc je suis revenu en France. Donc retour en France dans le sud, j'étais à Castelnau-le-Crès en CFA.
C'est dans le 34?
Non. Exactement. C'est dans le 34. Exactement. Ouais. C'est collé à Montpellier, donc c'est la banlieue de Montpellier. Donc j'ai passé une saison là-bas qui s'est très bien passée. Et puis par la suite, j'ai quitté carrément la France encore. Donc j'avais un projet qui m'a été proposé pour aller à Chypre. Donc je suis allé à Chypre et j'ai passé 5 années là-bas, donc un club de D1, ensuite j'ai été en D2, une montée en D2 en D1, et puis après, à ce moment-là, bah, je suis revenu en France avec des petits passages en Tunisie où j'ai fait 6 mois aussi, donc j'ai dû, c'était en 2009 il me semble, j'ai dû passer 6 mois là-bas. Et retour à Chypre, 6 mois, et puis à ce moment-là, ça, j'ai décidé de revenir en France et m'installer en France pour repartir sur un projet professionnel et sportif. Donc j'attendais un club, donc j'étais à l'UNFP à ce moment-là, donc j'ai été appelé par Angoulême, dont Patrick Trio. Il y avait La Vitraine et Evry aussi qui me proposaient un contrat, donc j'ai préféré venir à Angoulême parce que c'était un projet un peu plus intéressant sur la durée.
Professionnellement en plus.
Professionnellement, donc j'ai eu Patrick Trio qui m'avait séduit sur son discours et puis son projet aussi de partir sur l'aspect humain, d'être très important, et puis sportivement aussi. Donc voilà, donc je suis arrivé à Angoulême, j'ai fait une année, on a fait la saison qui est de la R1 où on est monté en National 3.
En N3, oui.
Donc je me blesse en fin de saison, ligament croisé, donc j'ai du mal à récupérer, donc j'ai passé presque 18 mois sans jouer, même si la blessure était de 6 à 8 mois, donc j'ai eu des complications derrière. Et j'avais repris pendant 6 mois avec la réserve, et puis à ce moment-là j'ai complètement arrêté parce que je me suis consacré complètement en tant qu'éducateur, parce que pendant que j'étais blessé, je passais mes diplômes d'éducateur. Et voilà, j'ai pris le foot à 11, donc j'ai pris les U15, U16, U17, U18. Pendant au moins, je crois, 6 ans, j'ai fait 6 ans.
D'accord.
6 ans avec les garçons. Après, j'ai développé le foot féminin aussi à Angoulême. Donc la création du foot féminin a été faite en 2016, on a débuté là-dessus. Et puis voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai quitté le club il y a 2 ans. Donc on avait toutes les catégories, 70-75 filles.
Ah ouais.
Donc voilà, mon projet était arrivé à terme. Donc voilà, donc j'ai voulu retourner chez les garçons. Donc c'est pour ça que j'ai quitté Angoulême pour aller à Barbezieux.
Comment Xavier Fornel t'a contacté?
Alors comment il m'a contacté? Donc je pense qu'il y a des joueurs qui sont déjà dans le club. Il était sur des profils, mais qui n'avaient pas donné suite. Et je pense que c'est un joueur qui l'a contacté, donc qui m'a rappelé pour savoir quel était mon projet, qu'est-ce que j'envisageais de mettre en place au club. Donc on s'est rencontrés, donc moi je lui ai dit que je voulais travailler sur 3-4 années avec l'objectif d'essayer de monter en R1. Déjà la première année d'essayer de monter déjà en R2 et puis envisager pourquoi pas la R1 sur les 3 prochaines années qui arrivaient. Donc on est sur la deuxième, donc il m'en reste encore peut-être 2 avant d'arriver en R1. Et voilà, ça l'a séduit, même si c'était ambitieux pour lui, parce que l'objectif était d'être en R2 et il attendait depuis des années. Donc moi je voyais plus loin encore. Donc voilà, c'était de rajeunir l'effectif aussi, de travailler sur de la durée avec les jeunes, mais aussi avoir quelques cadres pour les encadrer, donner un peu plus d'expérience. Forcément, on en a besoin à ce niveau-là. Et puis voilà, je pense qu'il m'a rappelé, et puis il était emballé, et puis voilà, on était parti là-dessus. J'ai commencé mon recrutement, même si j'avais déjà ciblé les joueurs que je voulais faire venir. Et voilà, la saison a commencé, donc aujourd'hui, on est au niveau qu'il souhaitait. Donc la R2, donc maintenant c'est l'ambition que je voulais moi d'aller en R1. Le président il me suit, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a besoin forcément des infrastructures, c'est important pour jouer à ce niveau-là. Donc on peut se rendre compte qu'aujourd'hui les clubs qui n'ont pas de synthétique ont du mal à rester sur le plus haut niveau régional.
C'est
très difficile de pouvoir s'entraîner dans les conditions sans synthé. On sent qu'il y a un décalage entre les autres équipes. Donc voilà, on a le projet aussi du synthétique, d'après le maire. Donc c'était d'envisager un synthé courant 2026. Donc avant son mandat, il souhaite de mettre en place. Donc on va voir avec le rugby si c'est faisable ou pas.
Oui.
Et puis voilà, donc voilà, on se dit 2026, si on peut arriver en R1, ça serait mon objectif, et puis passer la saison en R1, et puis voilà, après on verra ce qu'il en est, mais
d'accord.
Ça c'est mon objectif en tout cas.
Avant qu'on revienne sur la saison, quels enseignements, qu'est-ce que tu as appris de tes voyages à l'étranger? Je pense à Chypre, je pense à...
Portugal aussi.
Portugal, oui.
Qu'est-ce que je veux en tenir? C'est que déjà, culturellement...
T'as appris les langues?
J'ai appris les langues, donc je parle couramment portugais et anglais. Un petit peu le grec.
Le grec, ouais.
Même si c'est pas simple, parce que la plupart des gens parlent anglais là-bas, mais oui, la culture, la langue, plein de choses, en fait, le fait de vivre en autonomie, tout seul, loin de sa famille, de se forger
Ta famille, elle est basée où?
Elle est sur Orléans.
Sur Orléans,
ouais,
oui,
bien sûr, elle est du côté de Pithiviers.
Ouais. D'accord.
Donc, oui, forcément, c'était pas simple, déjà, quand j'ai quitté Pithiviers pour aller à Orléans, déjà, de rentrer quelques week-ends voir les parents, c'était très dur. Je pense que les jeunes qui aujourd'hui quittent leur famille si tôt, c'est très difficile. J'ai quitté ma famille à 14 ans, quand même.
Ouais, c'est dur, ouais.
Donc, j'ai pris mon premier appartement à Tours à 18 ans. Donc c'est vrai que de vivre seul, de se faire à manger, de prendre soin de soi-même à la maison, c'est très difficile. Mais au fur et à mesure du temps, bah oui, après c'est des bonnes expériences pour moi, parce que on découvre, et puis socialement aussi c'est très bien, quoi. J'ai adoré voyager, et si je devais le refaire, je le referais.
Tu referais la même chose,
largement. Ouais. Ah oui, beaucoup, largement, complètement.
Sur le foot au Portugal, ça joue technique ou c'est engagé? Parce que je regarde un petit peu des fois sur RMC Sport le football portugais, donc c'est assez dur, non?
Pour moi, le football portugais ressemble à celui de France. Hein.
Oui.
Il y a pas beaucoup de différences. Hein. C'est très technique, très tactique, pas forcément athlétique. Hein. Ça veut jouer beaucoup au ballon. Il y a beaucoup d'individualités. Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont brésiliens, voilà, on trouve beaucoup de joueurs très techniques à ce moment-là. Mais le football, pour moi, c'est le même aujourd'hui qu'on retrouve en France, quoi.
D'accord. Et le football à Chypre, c'était comment?
Je suis arrivé moi en Chypre, on était en 2006-2007. C'était les débuts où les étrangers arrivaient.
Oui.
Et où il y avait un recrutement fort étranger. Donc je sais qu'il y avait pas mal de joueurs, Pussan Diéfi, il y avait Chirou, Beni Achour, il y avait pas mal de joueurs qui venaient du championnat français ou du championnat grec, qui venaient de rejoindre. Donc le niveau les premières années était un petit peu en dessous, mais il y avait toujours des clubs mythiques de Chypre, comme l'Apoel Nicosie,
oui, ou, tout à fait,
ou l'Olympiakos, ou Anorthosis, ou Apollon Limassol. Donc c'était des clubs mythiques de qui étaient à un très bon niveau déjà.
Qui jouent en Coupe d'Europe.
Et puis c'était surtout de relever la deuxième partie du classement là, des équipes qui étaient du bas de tableau, de les remettre à ce niveau-là, et c'est là où il y avait un gros recrutement. Et je pense qu'à partir de 2008, le championnat était relevé et commençait à être relevé du côté de Chypre.
Donc c'est un bagage intellectuel, culturel et footballistique pour toi.
Exactement.
C'est bien ça dans un parcours de vie, non?
Oui, moi je suis content de ça. Je suis content d'avoir découvert déjà des pays différents. Chypre, c'est magnifique. Hein, comme,
oui, il n'y a pas d'hiver.
Cette île, elle est magnifique. Hein. Je me souvenais, c'était le ballon le matin et l'après-midi, on avait le temps pour nous pour aller se balader à la plage. Le temps était magnifique. Voilà, on a vécu, on était plutôt en vacances, mais...
Fallait faire le job quand même.
Ouais. Voilà, fallait faire le job le week-end, et ça c'était important. Et puis la semaine, de bien se préparer, d'avoir une bonne hygiène de vie.
D'accord. Ton passage en Tunisie, alors?
Alors j'ai passé 6 mois, j'étais dans un club qui s'appelle la Marsa, donc c'était un club de première division, donc c'était un club qui venait de monter. On a joué les 6-7 premiers matchs, je crois, où on avait rencontré les hauts tableaux du championnat tunisien, donc le Stade tunisien, le club africain, l'étoile, il y avait pas mal de gros clubs qu'on avait rencontrés, donc on avait fait 4 défaites, je crois, 2 matchs nuls et une victoire. Et puis voilà, ça s'est compliqué, il y a eu des départs à la trêve, donc le président financièrement commençait plus à suivre, et du coup j'ai dû quitter.
Ouais, d'accord, je comprends.
Voilà.
Voilà, parfait.
Donc il y avait des petits problèmes financiers, donc c'est pour ça que j'ai préféré repartir à Chypre et retrouver un petit peu la stabilité financière. C'est important parce que quand tu vis seul comme ça dans des pays, si financièrement t'es pas suivi, tu n'arrives pas à tenir, ben t'es obligé de repartir là où d'où tu viens.
Aujourd'hui, ton parcours professionnel, c'est quoi, Adnan?
Alors mon parcours professionnel, moi j'étais au Mans, donc j'ai fait un BEP compta.
D'accord.
Donc j'ai passé mon examen, je crois que j'étais au rattrapage, je ne l'ai pas fini, il me semble. Et c'était l'année où je devais intégrer le groupe pro. Donc et comme par hasard, je me souviens, il y a une prof, elle m'a dit c'est pas parce que vous passez dans le groupe pro qu'il faut arrêter les études, ça va être important, vous savez pas combien de temps vous allez durer dans le foot. Donc j'avais l'impression que elle avait raison, mais nous on y voulait pas y croire, on voyait que le monde pro, et puis on se disait voilà, de toute façon je vais pas continuer mes études. Bah du coup 4 mois après, la blessure au genou et des complications, donc on se retrouve dans le monde amateur et ça a complètement changé ma vie.
D'accord.
Donc j'ai fait un BEP, ensuite j'ai continué dans le foot, j'ai fait que du foot pendant une dizaine d'années, donc je suis arrivé au Angoulême à 28 ans. C'est pour ça que j'avais envie de me projeter sur un projet professionnel et sportif. Donc voilà, donc quand je suis arrivé ici, donc Patrick Trio s'est engagé pour que je puisse faire des formations dans le sport. Donc je me suis engagé, donc j'ai fait un BPJEPS à Poitiers au Krebs.
D'accord.
Donc j'ai eu mon BPJEPS et par la suite j'ai passé mon BMF, BE, et aujourd'hui voilà, j'ai toujours mon BE depuis 6 ans.
Alors on va parler de la saison présente, donc aujourd'hui vous êtes 5e.
Exactement.
C'est bien, avec 14 matchs, si j'ai bonne mémoire.
C'est ça, on
a... Et 27 points.
Exactement.
Voilà. Il y a un match de moins que les deux premiers. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le paysage de cette poule D de R2?
Alors la poule D, on était en hésitation parce que il y avait des clubs de la poule C qui souhaitaient venir dans notre poule. Nous on avait hésité à ce qu'on y allait sur la poule C. Moi je suis pas un adepte des derbies en fait, parce que les derbies c'est jamais le meilleur qui gagne.
C'est clair.
Et surtout que quand tu joues des derbies, les joueurs se connaissent, donc c'est une autre atmosphère et un autre match. Donc moi j'ai voulu rester dans la poule où on était, qui nous est tombée directement, donc j'ai pas voulu forcément changer. Donc je me suis dit si on est dans cette poule, vaut mieux y rester. Surtout que dans cette poule, la plupart des équipes nous connaissent pas. Donc Barbezieux, petite ville du coin, donc en Charente, donc ils connaissent pas trop. Donc je me suis dit on peut être la surprise. Donc début de saison, une poule assez relevée je trouve. Il y a quelques équipes qui ont complètement abdiqué, comme Mussidan.
Ouais, j'ai regardé, il y a une équipe à un point.
Voilà, qui avait fait deux descentes d'affilée, donc forcément ça a été difficile pour eux, je pense, de débuter la saison. Donc qui ont complètement lâché. Après on a le bas de tableau, une équipe de Chancelade qui vient juste de monter aussi comme nous, donc qui a été en difficulté rapidement. Et après on a un creux sur le milieu de tableau avec Pessac, Marmande, il y avait nous parce qu'on avait des matchs en retard, donc Porte entre deux mers, et puis il y avait le haut tableau, oui, Médoc et Bergerac avait bien démarré, Blanquefort est revenu aussi à la rescousse. Donc là aujourd'hui, nous on avait des matchs en retard, on savait que si on négociait bien nos matchs, on allait se retrouver rapidement dans le haut tableau. On a mal démarré parce qu'on avait pas mal de blessés en début de saison. Donc on a fait un mauvais démarrage parce qu'on était sur un nul, deux défaites et une victoire.
D'accord.
Donc on était très mitigé, on n'avait que 4 points. Et puis il y a eu la Coupe de France qui est arrivée aussi, donc on était toujours en effectif réduit parce qu'il y avait pas mal de blessés. On a fait le passage, on a sorti l'Eche Cap Ferré sur le 4e tour, et ensuite on a joué Bergerac la N2, et tout de suite derrière on a joué la R2, la réserve. Donc on perd contre Bergerac, et à partir de là on a eu une trêve de 1 mois parce que les intempéries. On a eu le temps de bien souffler et récupérer de la coupe, et puis à ce moment-là on est reparti sur une dynamique, on a fait 9 matchs sans défaite jusqu'au match retour de Bergerac.
D'accord, là au 3-1, c'est ça.
On est à notre place. Après, clairement, l'objectif du club avec le président en début de saison, on s'était fixé d'être sur la première partie du tableau, donc le maintien rapidement et accrocher la première partie du tableau.
Bon, là pour le maintien, apparemment c'est bon.
Oh, le maintien, je crois qu'il nous reste 3 points. Je crois que il faut au minimum 30 points pour être maintenu. Donc une victoire nous suffirait. Après, bon, là, on est dans la première partie du tableau, on est 5e. Je pense que voilà, maintenant l'ambition est d'aller chercher la meilleure place possible. Et je pense qu'on a la capacité. Maintenant, Bergerac va être champion.
Il marche sur l'eau, non?
Ouais, il va être champion. Je pense que c'est une équipe qui est déjà armée pour jouer en R1. Donc ils font une très belle saison où il n'y a qu'une défaite sur les 14 matchs qu'ils ont fait. Donc,
42 points, ouais, quand même.
On peut rien leur reprocher. J'ai des joueurs défensivement expérimentés.
Ils sont de bons contre-attaquants peut-être aussi.
Non, j'ai mon capitaine Mathieu Boltelot, qui a assez d'expérience quand même à ce niveau-là et qui tient très bien la baraque derrière. Et on a fait une recrue qui nous est tombée du ciel au mois de novembre, donc un joueur que j'ai formé à Angoulême, donc qui avait joué en National 2 avec Hervé Louba et qui avait rejoint Bourges et Créteil Lucitanos en National 2.
D'accord.
Donc il a fait son retour pour des problèmes personnels, donc il est revenu, il m'a contacté, donc ça a été, j'étais surpris. Et donc on lui a rapidement trouvé une situation professionnelle et puis voilà, il a voulu finir l'année avec nous pour retrouver un petit peu le temps de jeu, de retrouver un petit peu sa famille. Donc voilà, et puis voilà, quand t'as un défenseur de ce niveau-là, donc tu peux te dire que voilà, depuis qu'il est là, c'est vrai qu'on a enchaîné les victoires. Et
il joue défenseur central, je sais
pas. Il joue défenseur central, donc depuis que il est arrivé fin mi-novembre, il me semble. Donc on a enchaîné tous ces matchs-là, les 9 matchs. Donc on avait fait 7 victoires, 2 matchs nuls. Je crois qu'on n'a pas pris plus de 5 buts, il me semble. Si je me trompe pas, 5 ou 6 buts. Il y a un très bon équilibre entre la défense, le milieu et l'attaque. Aujourd'hui, en plus en attaque, je récupère tous mes attaquants. J'avais joué sans mes deux meilleurs attaquants quasiment pendant une demi-saison. Donc là, ils reviennent depuis 4 matchs et on voit que...
Ça suit au niveau des résultats.
Voilà, au niveau des résultats, au niveau des buts, voilà, ça y va, quoi. Donc on espère finir comme ça la saison et puis on verra où on va se retrouver en fin de saison.
Parfait. Vous êtes bien sur Attitude, vous écoutez votre émission Culture Sport. Culture Sport, c'est sur Attitude, 98.3, 90.7, attitudefm.com. Et bien entendu, donc, chez votre émission Culture Sport, chaque lundi, l'émission des sports, nous recevons un sportif ou un club local. Ça passe à partir de 19h10. Cette saison-là, est-ce qu'il y a des objectifs précis, non? Ou c'est quoi? C'est finir le mieux possible?
Sur l'équipe première,
oui.
Uniquement.
Il n'y a qu'une montée de toute façon.
Ouais, il n'y a qu'une montée cette année en R2. Oui, l'objectif c'est de finir la meilleure place possible. Donc je pense que voilà, aujourd'hui on est cinquième, on est capable de. L'objectif c'est peut-être d'accrocher le podium, si on peut. Maintenant, si on finit dans les 5 premiers, ça sera toujours une très très bonne saison. Et après, maintenant c'est d'essayer de se jauger en fonction des autres équipes, de voir où est-ce qu'on peut se situer si on se donnait à fond et qu'on jouait le coup jusqu'au bout. Quoi.
Quelle différence il y a significative entre la R2 et la R1, Adnan?
La R2 et la R1, je dirais que la R1, c'est un peu plus athlétique quand même. On va répondre sur le besoin athlétique. Et puis, oui, l'erreur paye cash quand même quand on arrive en R1. En R2, on peut trouver quelques équipes un peu déséquilibrées où on peut trouver des situations. En R1, moi je trouve que voilà, c'est les 12 ou 14 équipes qu'il y a, elles sont compétitives pour pouvoir, on va dire, le dernier est capable de battre le premier ou l'inverse. Mais moi je pense que il y a plus d'équipes, c'est plus stable.
D'accord.
Voilà, au niveau des équipes. Maintenant, en R2, on peut trouver toujours une ou deux équipes dans chaque poule qui est en difficulté et qui aura du mal à prendre des points, quoi.
Les clubs du Sud-Ouest, ça joue comment par rapport aux clubs du Centre-Ouest ou du Nord Charente?
C'est un peu plus football, je trouve. Il y a un peu plus d'intensité aussi. Après, c'est des clubs, la plupart, c'est des clubs qui ont déjà une expérience en R1. Il me semble, donc par rapport au Sud-Ouest où c'est des clubs qui viennent d'en bas et qui découvrent la R2 ou qui ont des années en R2, mais c'est vrai que voilà, quand on voit Blanquefort ou des équipes comme Médoc ou qui ont des objectifs de monter aussi, donc forcément c'est pas. Et puis on a qui dans cette poule encore qui t'apporte entre deux mers,
ça c'est une réserve. Prigonrieux, non?
Prigonrieux, qui est une équipe très athlétique, difficile à jouer chez eux. Donc, qui avait fait un bon début de saison et qui est toujours à la course pour jouer le podium.
Ouais, ils sont à 28 points, donc.
Voilà, donc, il y a des équipes, même la Dordogne, hein. C'est vrai que la Dordogne et la Gironde, ça joue très bien au ballon, plus à la Gironde que la Dordogne. La Dordogne, c'est un peu plus athlétique.
C'est un peu plus athlétique, ouais, c'est ça, oui.
Ouais, à part quelques équipes comme Bergerac qu'on peut trouver ou Trélissac ou des équipes comme ça.
D'accord. Alors si tu veux bien, on va s'attarder un petit peu sur le club. Il y a combien de licenciés à Barbezieux?
Alors, enfin, Barbezieux, il me semble, ouais, sur l'Alliance, on est
avait 250 ou 260 licenciés.
Ce qui commence à être un nombre significatif, oui.
Exactement. Donc, il y a une école de foot.
Il y a 10 équipes, c'est ça?
Un peu plus, je crois.
Un peu 14 plus, équipes. Ouais. 14 équipes.
14 équipes, ouais. Il y a 14 équipes en tout, il me semble. Si je me trompe pas.
Ouais. D'accord.
On a une école de foot qui travaille très bien. Il y a des petits jeunes qui, il y a des générations qui sont intéressantes.
Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont engagés dans des championnats régionaux?
On a nos 18 ans qui ont été, qui sont dans un championnat régional cette année.
C'est dur, non, pour eux?
Ils sont en difficulté quand même parce que il y a un petit peu d'avance. Je pense qu'il y a encore du travail quand on sort du district, découvrir le monde régional. Alors que la plupart des équipes qui sont déjà en régional, c'est qui viennent de la catégorie d'en dessous, qui étaient déjà en régional. Donc nous, on n'avait pas cette transition. Donc forcément, c'était beaucoup plus difficile pour eux. Donc, mais c'est une bonne expérience pour préparer ces jeunes-là sur le monde senior. Quoi.
Dans les catégories jeunes, donc vous avez quoi? Vous avez toutes les U17, U18, ouais, U15, U16.
Exactement. On doit avoir une vingtaine de U6, U7, une vingtaine de U8, U9. Après, on a deux équipes, donc U10 et U11. On a deux équipes aussi en 12-13. Donc après, on a l'équipe U15 et l'équipe U17 et les U18 et R2.
D'accord.
Donc on a toute la formation. Donc on essaye de travailler pour essayer d'emmener ces équipes-là au moins sur le foot à 11 au niveau régional. On essaye. Je sais que ça prend du temps. Il faut continuer à former. Il faut des bons éducateurs. Et
y en a
pour trouver des éducateurs dans le coin, c'est très difficile.
D'accord.
Donc voilà, on a récupéré quelques joueurs qui sont déjà éducateurs. Donc ça permet aussi de faire un recrutement et de permettre aux joueurs aussi d'être éducateurs au club, de s'impliquer dans le club. Donc on essaie de développer petit à petit et puis voilà, ça met du temps, mais voilà, c'est pas simple. Donc il faut s'investir beaucoup et il faut qu'il y ait beaucoup de communication et d'essayer aussi de travailler tous ensemble pour pouvoir réussir cet objectif.
Vous avez une B qui marche pas trop mal quand même, donc elle est en D1, elle est 4e avec 18 points, c'est ça?
Exactement. Bon, la B, ça reste une B, comme d'habitude. Hein. Donc, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Donc, quand l'équipe A est au complet, donc forcément, l'équipe B, elle est très performante. Et quand on est en difficulté, comme on a pu avoir en début de saison, bah, la B peut se retrouver aussi en difficulté. On a une équipe C aussi qui joue en 4e division, oui, et qui est toujours sur le podium tous les ans. Donc, bon, c'est une bande de copains. Donc,
on est plus sur du foot loisir.
Voilà, on est plus du foot loisir, mais ça reste des bons joueurs qui peuvent jouer en 3e div. Mais
d'accord,
ils préfèrent jouer, donc je sais même pas s'ils s'entraînent une fois dans la semaine, mais. Parce que la plupart, ils travaillent et puis ouais, c'est compliqué pour la vie de famille aussi. C'est compliqué d'avoir une séance dans la semaine. Mais voilà, ils sont là, ils s'amusent. Et puis voilà, l'objectif, c'est d'essayer de former pour l'équipe B et l'équipe A. Donc on va essayer de faire des joueurs des premières dives, des joueurs de première dive pour les jeunes qui sont dans la formation et la pré-fo.
Est-ce qu'il y a des entraînements communs avec la B ou pas?
Alors, les entraînements, la B s'entraînait tout seul. Donc j'avais mon groupe de 20 et
un groupe de combien?
Moi, j'ai 20 joueurs et 2 gardiens.
D'accord.
Et puis la B avait une dizaine de joueurs. Donc en sachant que dans mes 20, il y en a quelques-uns qui descendent en B le week-end, donc forcément. Et petit à petit, on a complètement arrêté les entraînements de la B et on travaille en commun. Donc avec le nombre, donc on devrait, avec les absents que je peux avoir, on peut se retrouver à 20, 24, des fois 20, des fois 18, ça dépend du temps. On a beaucoup de joueurs en B qui sont étudiants. Donc vu que ça vient de la formation, donc c'est des jeunes joueurs, la moyenne d'âge elle doit être de 20-21 ans en équipe B, donc forcément la plupart sont étudiants sur Bordeaux.
Donc ils sont en fac en Bordeaux, Limoges.
Poitiers, La Rochelle, Limoges, donc on les a pas la semaine, donc forcément le groupe il est restreint au niveau de la B, donc je récupère avec moi ceux qui peuvent s'entraîner, et puis donc voilà, on essaye de travailler ensemble, et puis le week-end on essaye de préparer avec les joueurs qui sont pas dans mon groupe et le reste de la B.
Il y a une section féminine, si j'ai bien compris. Donc avec une référente qui est Tatiana
Benamsili.
Benamsili, ouais.
Alors il n'y a pas de section féminine. Tatiana a été recrutée pour être la référente du foot féminin. On n'a pas pu avoir d'équipe féminine l'année dernière. On s'est pris un peu tard. Cette année, on a travaillé différemment. On a travaillé en partenariat avec le collège de Ben. Qui avait l'ambition de vouloir rouvrir la section féminine qu'ils avaient ouvert avec à l'époque Nicolas Epinou. Donc on a rencontré la principale qui était intéressée. Donc on a lancé
le projet. Donc voilà, il y a eu un article sur le journal, il me semble aujourd'hui ou hier, sur Barbezieux et l'option foot féminin à Benne. Donc voilà, on est en partenariat avec eux. Donc l'objectif, c'est que qu'on puisse développer le foot féminin. Moi, j'avais dit que j'arrêtais sur le foot féminin, donc je vais pas forcément m'appliquer à 100% là que dans ce projet. Mais voilà, je vais essayer de donner mon expérience et un petit peu les rouages un peu pour essayer de faire un recrutement et de développer la section féminine. Ouais.
Vous êtes fixé des objectifs en termes de timing pour qu'il y ait une section féminine ou pas?
Alors, des objectifs, le but, c'est d'avoir 16 filles au collège.
Ouais.
Pour pouvoir ouvrir cette section. 16 filles, c'est maximum. Si on est à 12, on ouvrira quand même. Et donc ces filles-là elles seront au collège, donc de Benne. Et puis on leur propose de pratiquer le foot à horaire aménagé. Donc elles quitteront l'école à 15h30 et elles pratiqueront du foot le mardi et le jeudi.
D'accord.
De 15h30 à 17h.
Très bien.
Plus l'objectif aussi, c'est d'essayer de créer cette en compétition, donc de les faire licencier au club de l'Alliance 3B pour qu'elles puissent pratiquer encore une séance ou deux en club, ça leur fera 4 séances, et puis jouer en compétition le week-end. Donc c'est vraiment un travail en commun avec le collège pour qu'on puisse développer nous la section au club. Plus avoir des filles aussi où pratiqueront un peu plus de séances que d'habitude.
À propos de passerelles avec les établissements scolaires, est-ce que vous, dans la section masculine, vous en avez soit à Barbezieux, soit à Benne, soit à Barré?
Alors nous, on a voulu ouvrir la classe foot. Le rectorat n'a pas donné suite sur ce projet-là, donc ils sont plus sur le foot féminin.
D'accord.
Garçon, j'ai l'impression qu'on essaye plus de supprimer les classes foot que de continuer à les développer. Je sais qu'il y a le rugby qui est ouvert en mixte.
Oui.
Sur Barbezieux, donc voilà, on est un petit peu partout au niveau du sport sur Barbezieux, ce qui est bien.
D'accord, avec le rugby, ça se passe comment?
Le rugby, on n'a pas forcément de lien. Mais on s'entend très bien. On espère, pourquoi pas, travailler sur un partenariat ensemble, de partager nos sports, d'essayer de découvrir leur sport, qu'ils puissent découvrir le nôtre, et puis pourquoi pas partager des repas ou des choses conviviales ensemble. Je trouve que voilà, on a la chance d'avoir une équipe en fédérale une sur Barbezieux. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne visibilité. À nous d'essayer de rejoindre cette équipe-là au plus haut niveau régional, pourquoi pas pour nous. Et puis je pense que Barbezieux sera bien placé au niveau du sport, quoi.
Tout à fait. On aurait dû commencer par lui, mais bon, l'essentiel c'est qu'on en parle. J'aimerais que tu nous parles du président Xavier Fornel et de la manière dont il gère un club comme l'Alliance 3B.
Bon, je vais reparler encore de Xavier Fornel comme j'ai parlé la dernière fois. Donc Xavier, c'est quelqu'un de très passionné, très investi dans son club, avec son coprésident de Benne, Bernard Portrait. C'est des gens qui sont très impliqués. On a des bénévoles très très impliqués.
Vous n'avez pas de difficulté à trouver des bénévoles ou passer à travers la crise?
Bien sûr qu'on a des difficultés, mais on a des gens qui sont ancrés dedans, et ça c'est très important.
Quoi.
Voilà, ils sont historiques, c'est très important, et ils donnent tout pour ce club-là, et c'est incroyable, quoi. Quand on voit ça, on se dit aujourd'hui, je pense que c'est les derniers qu'on va voir. La plupart, maintenant, les bénévoles, on trouvait, c'est très difficile, donc les garder, il va falloir tout faire pour les garder, ça c'est sûr. Et sinon, bon, pour parler de Xavier, Xavier Fornet, c'est quelqu'un de très passionné. Il est content de ce qui se passe au niveau de l'équipe première. Maintenant, son souhait, c'est d'essayer de structurer ce club-là et d'en faire un bon club de niveau régional. Je pense que c'est ce qu'il souhaite, et quand on l'entend parler. Après, il est impliqué, il donne ce qu'il peut donner, il essaie d'aider le club au maximum. Malgré que voilà, il a son boulot quand même avec son entreprise et ses frères, donc forcément c'est pas simple, mais en tout cas il est là tous les week-ends pratiquement. Quand il est en vacances, il peut pas être là, mais il essaie d'être là de loin, mais sinon il se déplace régulièrement avec nous, et moi je pense qu'il prend du plaisir depuis qu'on est là. Chaque week-end il se régale autour des terrains, donc malgré que parfois il est pas serein, il a toujours des doutes, mais à la fin du match, il se rend compte qu'en fait le résultat était là, et que voilà, il a plus confiance maintenant en ce qu'on fait en équipe première. Et je pense que voilà,
Voilà, maintenant, ce qui l'inquiète, c'est plutôt, c'est pas de l'inquiétude, mais ce qu'il souhaite, c'est vraiment de développer cette école de foot, ce club, pour que ça devienne un club un peu plus
référent,
on va dire, dans le coin. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a Angoulême. Bon, il y a Cognac qui a été en difficulté, mais qui peut repartir rapidement. Après, voilà, on est tous sur sur du niveau régional, la plupart des clubs. Mais je pense que nous, on peut aller chercher autre chose. Ouais. Que d'autres clubs.
Donc, aujourd'hui, est-ce que tu penses que les fondations ont été posées sur le club et que maintenant c'est bâtir sur le moyen et long terme?
Les fondations, oui, forcément. Quand on a une école de foot, pour moi, c'est la fondation. Aujourd'hui, un club qui n'a pas d'école de foot, forcément, il y a du mal à exister.
Oui.
C'est dur à exister. On n'existe que sur l'équipe première, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, une école de foot, je pense que sur le Sud 40, on est le club qui a le plus de licenciés, il me semble, si je me trompe pas. Donc, à nous d'être une équipe référente du Sud 40, l'équipe phare carrément. Et pour ça, il va falloir continuer à développer, avoir la bonne image, avoir les éducateurs pour mettre des choses en place pour qu'on ait plus de visibilité et surtout voilà, que l'équipe première puisse continuer son chemin et d'atteindre le plus haut niveau régional, ça serait important.
Donc toi, tu as une étiquette, j'ai regardé sur le site du club, donc tu es référent du programme éducatif fédéral, c'est quoi ça?
C'est une demande qu'on fait au niveau du district, donc pour être labellisé PEF, donc Programme Éducatif Fédéral, c'est de mettre des actions en lien avec le foot, des actions éducatives auprès des jeunes dans nos écoles de foot, c'est-à-dire mettre des actions en rapport avec la citoyenneté, l'environnement ou des questions sur l'arbitrage, des choses comme ça, au moins éduquer nos jeunes à travers
des valeurs,
voilà, et en partageant avec le foot aussi.
Donc ça doit être très enrichissant, non, comme fonction.
Oui, bien sûr, c'est enrichissant. On le fait souvent parce que on a la chance de le faire souvent durant nos stages. On essaye de mettre un petit peu d'aspect éducatif. Par exemple, le dernier stage qu'on vient de faire, on a fait une initiation à arbitrage où on a fait intervenir une personne du district qui est venue proposer l'initiation arbitrage à des jeunes de 10 à 13 ans. Donc c'est des choses où aujourd'hui on a besoin, quand on voit ce qui se passe dans l'arbitrage avec les joueurs. Donc c'est d'en parler, de sensibiliser.
En fait, une valeur citoyenne.
Exactement, et de le faire très tôt, c'est très bien pour que les jeunes puissent se rendre compte que être arbitre, c'est pas simple et c'est pas un ennemi. Il est là pour faire son boulot comme un policier peut le faire
dans son travail de tous les jours.
On est là pour ça et il faut se rendre compte que voilà, aujourd'hui l'arbitre est quelqu'un de neutre, il est là pour faire son boulot, il peut se tromper comme nous on peut se tromper, donc comme nous on peut rater devant le but, hein, ou un coach faire des mauvais choix. Donc voilà, le but c'est qu'il y ait un lien entre les éducateurs, les arbitres et les joueurs. Il faut vraiment qu'il y ait un travail tous ensemble. Je pense que le district essaye de trouver des solutions là-dessus. Et si on sensibilise très tôt, on aura peut-être moins de violence plus tard.
Est-ce que les jeunes t'ont donné beaucoup de satisfaction puisque tu les as entraînés donc à la CFC, ou est-ce que c'est différent d'entraîner des adultes?
On va dire que à la CFC, j'ai beaucoup été dans l'apprentissage. Donc mon objectif était de former des jeunes, de leur faire découvrir, de les faire progresser pour atteindre le monde senior. Aujourd'hui, j'ai formé pas mal de jeunes. Les joueurs que j'ai fait venir au club, soit c'est des joueurs que j'ai eu en jeune, ou c'est des joueurs que je connais très bien. Et aujourd'hui, oui, c'est un autre monde. On manage plus que de travailler ou faire de la formation. Quand aujourd'hui c'est un coach en senior, il n'est pas que coach, il est aussi manager. Donc il y a des choix à faire. Ça travaille beaucoup sur l'aspect social, sur la pédagogie que tu peux avoir. C'est différent. Aujourd'hui on est beaucoup dans le résultat aussi.
C'est clair.
Forcément, alors que la formation, on est sur de la progression. Donc c'est différent. Donc forcément c'est c'est particulier, quoi. C'est pas pareil, quoi. On est focus, on travaille tous les jours pour essayer d'avoir des résultats, donc faut faire des choix. Et puis voilà, quand on arrive dans le monde senior, bon, forcément, les gamins ils sont plus à l'école, la plupart, donc ils ont un travail, donc trouver du temps pour s'entraîner, de faire autant de séances, d'avoir le sérieux régulier de toute l'année, c'est très compliqué à ce niveau amateur.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé chez les jeunes depuis le temps? C'est pas si lointain où tu étais joueur, toi.
On en parle encore souvent à l'entraînement. Des fois, j'en parlais avec des anciens, je leur disais que les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas nous. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est pour une action, on va essayer de filmer, on va essayer de faire diffuser. Donc, on est beaucoup sur son téléphone. On est beaucoup sur l'apparence. Je me dis des fois, on est qu'en amateur et on est qu'en régional. On a l'impression qu'on a des joueurs qui ont déjà une carrière ou qui ont déjà joué en pro ou qui pensent qu'eux, ils sont déjà à un certain niveau. Alors que ça reste que de la régionale 2, quoi. Moi, je pense que ouais, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup les choses très haut, alors qu'aujourd'hui, et c'est ça qui gâche certains ont gâché leur carrière comme ça, quoi. Parce que de rester humble et de continuer à travailler et de se dire que pour l'instant je suis que là et on n'est pas encore arrivé au monde pro. J'imagine si un jour ils arrivent au monde pro, ça va être autre chose. Mais c'est vrai que la génération, elle a changé. L'environnement fait que aujourd'hui les générations changent. Et oui, par rapport à nous, nous qui sommes nés en 80, 85, même les 90, on va dire, on avait cette culture de vouloir s'entraîner dur, de respecter les anciens, de vouloir s'entraîner régulièrement. On attendait que ça, si on pouvait s'entraîner 3-4 fois, on le ferait, tu vois. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, y en a, ils viennent pour venir, quoi.
Ouais. Et puis il y a peut-être aussi là-dessus le rôle des parents, donc qui est important et qui a peut-être changé, puisque est-ce que les parents ont toujours le même rôle, à ton avis?
Non. Après, nous sur les seniors, c'est différent. Maintenant, je pense que maintenant les jeunes qui sont en seniors sont moins accompagnés par les parents. Les parents les laissent faire leur vie et puis ils décident eux-mêmes.
Maintenant, je parlais des jeunes. Là.
Maintenant des jeunes, ouais. Le problème c'est qu'on veut tous, comme on dit, on veut tous le projet Mbappé. On veut des futurs Mbappé, donc on est autour des terrains, on laisse pas l'éducateur faire son boulot, donc on veut conseiller son fils alors que l'éducateur a donné des consignes. Et il est perdu, quoi, en fait.
Tu l'as vécu, ça, oui.
Je l'ai vécu. Je l'ai pas trop vécu parce que moi j'avais pas forcément des parents qui étaient là à râler derrière son fils ou quelque chose comme ça. J'avais des parents impliqués forcément qui soutenaient l'équipe, mais on peut le trouver beaucoup aussi sur le foot à 8 ou sur le foot à 5, même des fois à 6 ans, 7 ans, 8 ans, et des parents ils sont derrière leur fils. Et comme je dis, c'est bien de l'accompagner, mais faut les laisser vivre.
C'est du loisir,
voilà, hein, ça reste du loisir, et le loisir peut devenir quelque chose de sérieux si on le laisse faire lui-même ses propres choix, ses propres décisions, d'écouter les personnes qui sont là pour eux. C'est comme on dit, les éducateurs, c'est important, ça. Et de le laisser. Aujourd'hui, voilà, des Mbappé, il n'y en a pas 50 000.
Ben non, il y en a qu'un.
Voilà, donc, et Mbappé, je ne pense pas que son père était autour du terrain en train de lui gueuler dessus.
Je pense pas non plus.
Ou lui dire comment il doit faire, comment il doit jouer. Donc, c'est l'instinct. C'est soit le gamin, il a envie de le faire, il va y aller tout seul. Et en écoutant son éducateur. Sinon, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aider les enfants, c'est de bien leur expliquer qu'ils doivent écouter leurs éducateurs et qu'ils doivent faire en sorte d'écouter comme s'ils étaient à l'école et de reproduire ce qu'ils font le week-end. Maintenant, débriefer avec son fils le soir, pas de souci. Mais autour du terrain, tu peux pas le déconcentrer pendant qu'il joue. Ça, c'est pas.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est pas football, ça.
Adnan, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. On arrive au terme de cette émission. Le temps passe vite.
C'est clair, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais souhaité qu'on parle? Question d'abord, est-ce qu'il y a un tournoi printemps à proposer?
Printemps, l'an d'été, on va dire. Oui, il y a un tournoi. Je sais pas s'il y a eu des tournois. Je pense qu'il y a eu des tournois à Barbezieux à l'époque, mais ça s'est arrêté. Et l'année dernière, quand j'ai pris le club, j'avais dit au président, il faut un événement. Ils font un événement, on peut pas rester comme ça. Donc lui, il était pas trop sûr parce qu'il se disait que ça va être très difficile de faire venir des
organiser,
équipes.
Organiser, oui.
Voilà, il faut un réseau, il y a pas mal de tournois qui se font. Il y a pas mal de tournois qui se font aussi à la même époque. Donc moi, j'ai pris la décision de créer un tournoi d'été à Barbezieux. Donc on a un autre tournoi qu'on a fait l'été dernier, c'est-à-dire le 15 juin. Il me semble que c'était le 20 ou le 18 juin. On a fait notre première édition. qui a été un succès. On avait 16 équipes en U11, 16 équipes en U13. Et oui, on avait 32 équipes en tout sur 2 jours. Donc ça s'est très bien passé parce que j'ai la chance d'avoir des connaissances de coachs qui sont dans la Gironde, dans la Dordogne, dans la Charente-Maritime, en Charente. Donc on a pu mixer tous ces départements. Et vu qu'on est situé à un endroit c'est bien précis,
bien stratégique,
donc stratégique, ça a été top parce que en fait ça sort du contexte qu'on a l'habitude de voir les équipes, qu'on rencontrait déjà en championnat, de les rencontrer en tournoi. Voilà, c'est là on découvre autre chose, on découvre d'autres départements, on n'a pas la chance de faire en championnat, donc si on peut le faire en tournoi, ça a été un très bon succès. Les bénévoles ont été présents, les équipes ont joué le jeu, très bien organisé, j'étais content de nous, on l'a fait sur le terrain d'honneur en plus.
Très bien.
Et les vainqueurs en U11 étaient Sainte et en U13 lui à Cognac. Et là, cette année, on repart sur une deuxième édition. Le tournoi est pratiquement complet. Il doit manquer une ou deux équipes dans chaque catégorie, mais sinon. Et j'ai rajouté vendredi soir le foot loisir. Donc s'il y a des équipes encore qui souhaitent s'inscrire concerne les départementales 3, 4 et 5. Donc c'est des équipes qui vont jouer à 7 avec un gardien, donc à 8. Et il faut être licencié et jouer à ce niveau-là. Donc bon. Avoir plus de 35 ans forcément,
ouais,
ça reste
du
foot loisir. Donc les joueurs qui jouent en première division ou deuxième division qui ont 35 ans, ça passera pas, il va falloir jouer. Non, mais c'est juste surtout pour le fun et d'être convivial, d'être connu, d'avoir et d'échanger, que les clubs puissent échanger entre eux. Certains ne sont pas dans le même championnat, donc découvrir d'autres personnes, d'autres championnats, ou de croiser des équipes contre qui on a joué, on n'a pas eu le temps de sympathiser, donc de se retrouver dans un tournoi autour de la buvette, d'une bière ou d'un coca ou je sais pas.
Bon, bah c'est très bien ça. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation.
Pas souci.
C'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc on va garder un œil éveillé pour savoir ce qui va se passer sur la fin de la saison pour l'équipe Fagnon. Donc on va vous souhaiter le meilleur. On fera peut-être un petit coucou en fin de saison pour savoir si tout s'est bien passé.
Il n'y a pas de problème.
Et en tout cas, merci d'avoir accepté notre
invitation. Merci à toi Didier.
À très bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Chers auditeurs, nous quittons, donc nous vous donnons rendez-vous lundi 19h10, à partir de 19h10 sur Attitude pour suivre notre émission favorite Culture Sport. Bonne soirée à tous.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va aborder les résultats des clubs charentais du week-end en commençant par le football et la CFC. La CFC qui recevait Saumur samedi soir au Stade Le Bon. Un match important pour la CFC qui devait confirmer son succès obtenu à Blois samedi dernier. Et malheureusement pour les Angoumoisins, c'est une défaite. Défaite 2-1 avec une équipe de Saumur qui est le mieux rentré dans la rencontre avec notamment un pénalty obtenu en première mi-temps. Un pénalty que stoppera Patrick Sincheux. La décision se fera en deuxième mi-temps avec un but de Magassa et un deuxième but signé Dogou. Dans le temps additionnel, Andrea Marquez côté angoumoisin va réduire le score sur un corner, mais malheureusement un but qui ne changera pas la physionomie du match. La CFC s'incline 2-1. Les autres scores de cette journée de National 2 avec La Roche-Sorion qui bat Bergerac 1-0, Blois s'impose à Trélissac 2-1, Bourges bat Avoine-Chinon 1-0, Libourne bat Angers 4-1, Les Herbiers s'imposent à Saint-Privé-Saint-Hilaire 2-0 et enfin le Paris 13 Atlético bat Romorantin en tête du classement, Libourne avec 35 points. La CFC descend au 7e rang et recevra vendredi prochain Trélissac. En régional, quelques rencontres de régional 2, notamment des matchs retard avec notamment en poule C, Saint-Ariex qui s'impose contre Royan 3-2, une victoire importante pour les hommes de Mickaël Ruiz qui ont pris le meilleur départ puisqu'ils menaient 3-1 à la mi-temps. Victoire de Niort-Saint-Florent du côté de Sireuil, victoire 2-0 des Niortais, victoire également de Libourne B à Merpin, victoire 4-1 pour les réservistes libournais. Et enfin, le gros carton du week-end, il est signé l'Alliance 3B qui s'impose à Mussidan. Victoire 10-0 des hommes d'Adnan Elarchi. En Régional 3, en poule C, victoire de Basseau 4-0 contre Niort-Saint-Liguer. En poule D, victoire de Champigny 2-1 à Couzex-Chapla. en poule, défaite malheureusement de Soyo 5-1 à domicile contre Saint-Savin Saint-Germain. Et enfin en poule G, victoire de l'Alliance du Mauron 2-0 contre Vindel. En première division district, quelques résultats également à vous communiquer, avec notamment le succès de Briche 1-0 contre l'Alliance 3B. Le Roi s'impose à Merpin, victoire de Le Roi 5-0. La Couronne et Saint-Michel font un partout. Ruelle bat les Sacs 3-0. Et enfin, Moutier et Sireuil se quittent sur un score de 1 partout. En D2, quelques résultats également de match en retard, avec le nul entre Chasseneuil et Mornac 2 partout. La victoire de Charente-Limousine contre Aigre 4-3. Match nul de Roulé 1 partout contre Montbron. Victoire de Ruelle 2-1 contre Brigueuil. Et match nul entre Fléac et Ruffec 2 partout. En poule B, quelques rencontres également. La victoire de Saint-Séverin du côté de Montmoreau 2-1. La victoire de Verdi 5-2 à Clé. Et la victoire de Saint-Brice du côté de Sud-Charente, victoire 3-1 des hommes de Julien Laurent. Handball avec deux matchs qui se sont disputés ce week-end. On va commencer par la Nationale 1 féminine, avec la défaite malheureusement de l'ACH à domicile, défaite contre La Roche-sur-Yon, défaite 28-25 des Angoumoisines. Enfin, en Nationale 2 masculine, l'ETEC s'impose à domicile, l'ETEC qui retrouve le chemin de la victoire à chez lui, victoire contre Iris Artarac, victoire 30-27 pour les hommes de Dimitri Goudu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.